La justice niçoise va-t-elle fermer un collège?
Oui, le collège musulman niçois à Vicennes. Eh bien, en tout cas, le tribunal administratif examinait la question ce mardi en séance. La préfecture avait demandé il y a quelques semaines la fermeture administrative de l'établissement, l'accusant de ne pas prouver d'où venaient ses financements. Le préfet parlait même de financement opaque. De son côté, l'avocat de l'établissement a pointé du doigt cet après-midi une contradiction, celle de demander soudainement des comptes alors que les services de l'État, dit l'avocat, ne l'ont pas fait pendant plus de 2 ans. Le collège à Vicennes, dans le quartier de l'Ariane, compte 96 élèves et la justice rendra son jugement vendredi prochain.
Et puis la préfecture, hein, toujours elle, expulse un étranger radicalisé dans les Alpes-Maritimes.
Il s'agit d'un homme de nationalité algérienne de 39 ans. Il était fiché pour radicalisation à caractère terroriste et connu des services de police pour agression sexuelle, nous dit la préfecture. Il a été reconduit dans son pays d'origine après avoir été placé en centre de rétention administrative. C'est la 3e expulsion de ce type depuis le début de l'année, effectuée par la préfecture qui, à chacune d'entre elles, communique à tous les médias ce type d'information. Le corps de Camille Marchetti, cette trentenaire, disparue le 9 mars dernier dans le Var, a été retrouvé sur la terrasse d'une maison à Saint-Égulfe, justement dans le Var, dans une maison secondaire en fait, qui n'était pas habitée. Ce sont à l'arrivée des propriétaires que le corps a été découvert, découverte ensuite confirmée par la famille. Une autopsie va bien sûr avoir lieu pour déterminer les circonstances du décès. Et puis Nice Matin révèle ce soir que le corps retrouvé à Saint-Étienne-de-Tinée il y a 10 jours, eh bien ce corps a été identifié. En fait, il s'agit d'une octogénaire disparue il y a 2 ans, une randonneuse régulière dans le secteur. L'écologiste niçoise Hélène Granouillac demande l'arrêt pur et simple du projet Canua Island. Vous savez, cette île artificielle, sorte de barge touristique avec piscine, restaurant et transat de plage qui serait implantée dans un mois au milieu de la baie de Cannes, Mandelieu. Eh bien, pour l'élu azuréenne, il faut stopper ce projet qui vient, malgré tout, d'avoir toutes les autorisations. C'est ce que nous a spécifié son propriétaire que nous avons joint par téléphone ce mardi.
C'est ce qu'on appelle une prouesse médicale.
Alors, c'est même, Thomas, carrément unique au monde. Une valve cardiaque, opération très complexe, eh bien, a été implantée par un robot, une opération complètement automatisée et gérée en plus par une IA, une intelligence artificielle. L'expérience a été réalisée dans un premier temps sur un animal. Ça s'est passé à l'Institut Arnaud de Sanck, hein, à Saint-Laurent-du-Var. L'opération très complexe pour un humain est du coup donc énormément simplifiée par l'IA, ce qui permet après l'intervention chirurgicale de guérir plus vite et puis surtout d'avoir moins abîmé la zone au moment de la pose de l'implant. L'activité touristique en Espagne, deuxième quand même destination mondiale après la France, devrait battre cette année son précédent record datant de 2023. Le PIB touristique de l'Espagne, écoutez bien, devrait dépasser les 200 milliards d'euros en 2024. Et en même temps, eh bien, l'Espagne se retrouve confrontée à une montée de la colère contre le tourisme, phénomène que la Côte d'Azur connaît de plus en plus.
Et ça y est, c'est parti.
Oui, à 100 jours des JO, la flamme olympique a été allumée à Olympie, en Grèce, et elle a été transmise au premier relayeur. Alors le premier a été le grec Stefanos Entsoukos, champion olympique d'aviron à Tokyo en 2021, avant d'être passé à Laure Manaudou, l'ex-nageuse, la première porteuse de flamme française, non sans un peu de pression, a expliqué la française.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress quand on voit le premier relayeur arriver, puisque la petite clé n'est pas encore activée dans ma torche et donc le gaz n'est pas encore allumé. Donc un petit peu de stress de se dire est-ce qu'elle va s'allumer, combien de temps je vais devoir rester comme ça avec le bras en l'air. J'avais les mains moites. Je me suis dit, mais si j'ai les mains moites, la torche va tomber, comment je vais faire? Et puis après, je me suis dit, non, détends-toi, tout va bien se passer. Ça va passer très vite, donc juste profite. J'ai l'impression de m'être arrêtée un peu dans ma tête quand je courais et de me dire ralentis déjà, parce que tu vas vite. Et prends conscience de la chance que tu as d'être ici et d'avoir le symbole de la paix mondiale en ce jour dans les mains. Et toutes les valeurs du sport et de l'humanité aussi. Donc c'était à un moment donné, ouais, j'ai eu l'impression de m'arrêter dans ma tête et de profiter.
Voilà, Laure Manaudou au micro d'Emma Sarango. Et puis une fois que tous ces athlètes auront couru cette flamme
et qu'ils seront passés par les Alpes-Maritimes avec des athlètes de chez nous, nous vous ferons vivre ce moment sur France Bleu Azur.
Eh bien cette flamme, Thomas, elle arrivera à Paris et les JO pourront ainsi débuter. Alors à 100 jours, 101 jours, on se prépare. À Nice, dans le stade Alliance, ce sont les CRS Montagne qui s'entraînent sur la toiture du stade. Oui, carrément, un exercice afin de réviser certaines techniques utiles pour intervenir par le haut, par le toit. Par exemple, pour déloger des manifestants déployant des banderoles. Le capitaine Boris Poix, le chef de CCRS Montagne, explique que ça ne se fera pas facilement et surtout pas du jour au lendemain. Question de sécurité et de technique pour ces hommes.
C'est deux jours de stage donc technique d'intervention en hauteur pour rappeler à tous les intervenants quelles sont les normes d'intervention sur les futurs événements des Jeux Olympiques 2024.
Parce que c'est pas la même chose que quand on intervient en montagne.
En tout cas, on veut absolument que toutes les unités aient les mêmes normes d'intervention. Donc en effet, c'est pour mettre les effectifs au courant de comment intervient aussi le RAID et comment intervient la BRI, comment intervient la BI, pour que voilà, tout le monde sache comment travaillent les autres et qu'ensuite on puisse mixer les équipes sur les événements.
Ça pourrait être quoi les scénarios où vous pourriez intervenir ?
Des événements très simples où par exemple un groupe d'activistes décide de déployer une immense banderole dans un stade pour déployer un message. Ça peut être un des scénarios qui est déjà arrivé, ou un autre scénario pourrait être quelqu'un qui décide de se suspendre à une structure pour faire passer un message.
Voilà, et les Jeux Olympiques, allez, soyons précis Thomas, c'est dans 101 jours, mais demain, forcément, ça sera dans 100 jours,
bah oui.
Et on vous mettra tous les athlètes qui sont déjà qualifiés pour parler
bon.
Des 100 jours.
Ouais, vous êtes vachement bon en maths, hein. Ah ouais, maths, moi je suis impressionné. Ouais,
c'est sûr. Alors pour ceux qui vont devoir être bons en maths, c'est les volleyeuses du Canet. Elles ont intérêt d'être plutôt au point, parce qu'elles ont été battues à Nantes ce week-end, en demi-finale aller des play-offs du championnat de France. Les Azuréennes doivent donc absolument se rattraper. Oui, question comptabilité. Elles reçoivent les Nantaises ce soir dans leur salle, le gymnase Maillan, et doivent donc absolument remporter ce match pour s'offrir un match d'appui, comme on dit. Et le coup d'envoi, c'est à 20h.